Les Jardinières.
C'est le dernier week-end d'été de 2019. Lundi, c'est l'automne qui prend place. Et qui dit automne, dit tarte aux pommes, gratin de poireaux, soupe à la courge. Bon, on n'est pas là pour cuisiner, mais bien pour jardiner. Bienvenue chez les jardinières. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, bonjour à tous. Et ça y est, moi j'ai déjà faim, hein, je vous l'avertis tout de suite. Hein, ça y est, la tarte aux pommes, moi, elle m'a réveillé direct. Il s'est levé tôt, je ne sais pas s'il a faim pour répondre à vos questions. C'est Philippe Détrin, horticulteur bio au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Bonjour Philippe et bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
Au 0901... Pardon, je voulais dire que vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour poser vos questions directement à Philippe. C'est pour 36 centimes la minute.
Oui, puis comme on a un petit peu l'habitude, si vous êtes timide, vous pouvez nous envoyer un message. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939. Ça m'évite d'avoir quelqu'un au téléphone et de devoir retranscrire une question que je ne comprends pas forcément tout de suite. Et bien sûr, vous pouvez aussi remplir le formulaire à disposition sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions ou jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Philippe, il faut bien se rendre à l'évidence, l'été s'en va, les températures baissent gentiment, la nuit tombe plus vite, les matinées sont fraîches. Dans cette entre-saison, que faut-il faire dans notre potager?
Alors disons que le mois de septembre se prête à beaucoup de récoltes. On peut penser aux courges, aux aubergines, aux tomates, aux piments, aux poivrons. Donc il y a pas mal à récolter en général au mois de septembre.
Récolter, ok. Planter ou c'est fini?
Alors planter, on pourrait encore, bien que ce soit un petit peu des travaux qui sont un peu perdus. On pouvait planter des oignons, on pouvait planter différentes choses. Et bon, on peut penser aussi aux arbres bientôt, aux arbres, aux arbustes. Et puis alors, bon, mais j'aimerais quand même signaler que c'est le bon moment pour planter les fraisiers.
Les fraisiers?
Pour l'année prochaine.
Ah, il faut s'y prendre aussitôt.
Ah oui. Bon. Ouais, ben voilà, en général, on les plante plutôt on les vend plutôt au printemps, en pensant qu'on va avoir une bonne récolte immédiate, mais c'est un peu faux. Donc on a meilleur temps de les planter maintenant pour qu'ils puissent bien s'enraciner et puis bien donner l'année prochaine.
Merci Philippe.
Pour une bonne tarte aux fraises. Voilà, comme ça on était sur la tarte aux pommes, on passe aux tartes aux fraises. Nous sommes avec vous jusqu'à 8h pour poser vos questions à Philippe Détrin. Vous avez trois possibilités. Un message au 939, vous tapez jardin, un espace. Votre question, vous pouvez le faire par téléphone également au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou via le formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions ou jardinières.
Les jardinières seront de retour juste après Charlie Puth et ce titre Attention.
Les jardinières. 7h, 8h, les jardinières.
Philippe Détrin, horticulteur bio à Neuchâtel, répond à vos questions jardinage jusqu'à 8h.
Et on va débuter tout de suite avec cette question de Maxime de Cressier qui nous a écrit via le formulaire. Bonjour, ça fait plusieurs années que je plante du maïs doux, mais je n'ai jamais eu de récolte utilisable. Qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine? Merci beaucoup.
Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par inutilisable. En fait, peut-être qu'il le laisse mûrir trop longtemps. Donc après, les grains deviennent durs et c'est des grains que l'on peut réutiliser pour les semer. Donc le maïs doux, en principe, ça se mange plutôt immature.
Je crois que c'est...
Immature, donc très jeune. Hein.
Ouais, relativement jeune, ouais.
Moi, j'ai déjà vu des grains de maïs, des épis de maïs où il n'y avait pas des grains partout.
Ouais, ça peut arriver, c'est une histoire de fécondation.
Ah, c'est juste un problème.
Mais je ne suis pas un grand spécialiste du maïs. Hein. Désolée.
Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon?
C'est vrai.
On a reçu une question par SMS de Stéphanie. Elle demande si elle peut conserver son fuchsia à l'abri durant l'hiver et le ressortir au printemps. Philippe, comment faire?
Oui, alors le fuchsia nous vient de pays exotiques qui sont plus chauds que chez nous. Et donc le fuchsia ne supporte pas le gel comme les pélargoniums, comme les géraniums que l'on a sur les balcons. Pardon, j'ai un peu de la peine au démarrage ce matin. Mais... Donc il faudrait les conserver à l'abri du gel et puis avec beaucoup de lumière. C'est vraiment ça le truc, c'est frais et lumière. Mais frais, c'est 10, maximum 15 degrés.
Merci Philippe. Faites comme Stéphanie, envoyez vos questions par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez tout ça au 939. Vous pouvez aussi le faire par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors via le formulaire à disposition sur nos sites. Vous allez sous l'onglet émission. Question aux jardinières. Raphaël, je pense qu'on va poser encore une question avant la pause musicale.
Oui, une question qui nous arrive de Léon et qui nous dit qu'il a fait pousser des poivrons et du piment en pot. Il se demande si c'est possible de les rentrer tels quels pour l'hiver à l'intérieur pour les garder jusqu'à la saison prochaine. Si oui, quelles précautions prendre, la taille, etc., etc.
Alors, a priori, c'est pas impossible, mais il faudrait être équipé d'une serre. Moi, je le fais moi-même pour des piments.
C'est beaucoup moins pratique, la serre, ouais. dans son salon. Quand
ouais, même. Alors, peut-être, non, ça ira pas. Par contre, il peut les rentrer avant le gel et il va prolonger de quelques jours, voire de quelques semaines, la vie de ces plantes. C'est un petit peu comme si on voulait rentrer des plantes tomates, donc c'est pas trop... Ouais, voilà. On n'a pas envie de le faire. Quoi.
Oh, on aurait envie de le faire, avoir des tomates toute l'année.
Non, ça permet juste de faire mûrir peut-être les quelques derniers fruits.
Merci Philippe. On va se retrouver dans un instant, juste après Robbie Williams, suprême.
7h, 8h, les jardinières. 7h, 8h, les jardinières.
Jusqu'à 8h pour poser vos questions aux jardinières au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. C'est Philippe Détra qui répond à vos questions. D'ailleurs, Raphaël, vous avez Agnès au téléphone.
Exactement, Mylène. Agnès qui nous appelle de Basse-Cour et qui a une question pour notre spécialiste ce matin. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous laisse poser votre question à Philippe.
Non, d'accord. Bonjour Philippe, c'est Agnès Mandra de Basse-Cour. J'aimerais savoir si le thym, les romarins, il faut le couper à ras, l'automne. Faut tout couper ou bien ?
Non, moi je vous conseille de ne pas les couper du tout. En automne, en tout cas.
Tout.
Ouais, bon, donc vous pouvez couper pour la consommation, enlever les fleurs éventuellement.
Ah oui, d'accord.
Mais le truc, c'est que si vous les coupez trop bas. Et que par hasard, on a, ça peut arriver, un mois de janvier qui est relativement doux, eh bien, ils vont démarrer trop tôt. Et ils risquent de passer un sale quart d'heure au moment du mois de février avec les retours des gros froids.
Bon, d'accord.
Donc, vous avez le meilleur temps d'attendre début mars.
De laisser, oui. Et puis maintenant, je voudrais mettre des ciboulettes. Hein.
Ouais.
Il faut en replanter ou bien comment ça va?
Ouais, vous pouvez planter.
J'ai plus rien et puis je. Acheter des pieds, si vous voulez, les repiquer. Ouais,
absolument, ouais, donc c'est une plante très solide.
Bon, alors, bon, je voulais savoir à quoi le romarin est ce teint. Bon, merci.
Je vous en prie.
Merci beaucoup Agnès pour votre appel. Merci beaucoup.
Merci à vous. Voilà. Bonne journée.
Merci. On vous rappelle déjà peut-être qu'il faut appeler le 0901 si vous voulez faire comme Agnès, 70 20 20 pour poser directement vos questions à Philippe ou autrement vous pouvez le faire par SMS, un message, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939 et vous pouvez également utiliser le formulaire à disposition sur nos sites internet sous l'émission Questions jardinières.
On a d'ailleurs reçu un message de Roger Bernard de Lignières qui nous dit: j'ai entendu dire qu'il fallait parler aux plantes et fleurs pour leur assurer une longue vie. Est-ce que vous le faites? Est-ce bien juste?
Alors, moi, je ne leur parle pas vraiment.
En plus, quand on entend votre voix, Philippe, ce matin, ouais, on se dit qu'il ne faut pas parler aux plantes.
Mais probablement, il existe des ouvrages là-dessus qui disent qu'effectivement, elles entendent la musique. C'est très probable. Hein, ça se fait aussi dans les étables.
Mais pas aux plantes.
Aux plantes, aux vaches, oui. Il y a eu des essais, mais je ne me suis pas trop penché là-dessus. Il y en a même qui bougent en fonction des sons qu'elles entendent.
On va enchaîner sur une question. Résinet en pot, Raphaël.
Exactement, qui nous vient de La Chaux-de-Fonds, de Maddy de La Chaux-de-Fonds. J'ai un résinet en pot, faut-il le tailler pour l'hiver? Merci, belle journée.
Alors, la taille des arbustes à petits fruits se fait plutôt pendant l'hiver, lorsque la plante aura perdu ses feuilles. Et là, un petit truc assez simple, mais bon, qu'il faut arriver à imaginer. En principe, pour les résinets, on enlève un tiers du bois d'une année, un tiers du bois de 2 ans, un tiers du bois de 3 ans. Moi, je simplifie en enlevant un tiers de la plante, les branches les plus vieilles. Et comme ça, on enlève en même temps un tout petit peu des autres.
Est-ce que c'est la même chose pour un framboisier?
Non, les framboisiers, on a deux types de framboisiers, c'est ceux d'été et d'automne. Ceux d'automne, on les rase intégralement pendant l'hiver. Donc absolument tout, ils ont tout le printemps et l'été pour repousser. Et puis les framboisiers d'été, on n'enlève que les branches qui ont donné des fruits.
C'est noté. Merci Philippe. On va faire une pause avec la météo et l'inforoute, mais avant on va vous rappeler comment nous joindre pour poser vos questions.
Le numéro de téléphone, c'est celui qu'on préfère parce que vous êtes avec nous en direct dans les jardinières, 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Et puis si vous aimez pas parler à la radio et que ça vous fait un petit peu peur, vous pouvez utiliser le SMS, un message au 939. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez forcément au 939 ou via le formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Merci d'accueillir les jardinières chez vous. Nous sommes en compagnie de Philippe Détra, horticulteur bio au Jardin des Senteurs à Neuchâtel.
Et pour lui poser toutes vos questions, vous avez trois possibilités. Si vous êtes loquace et que vous avez envie de directement lui parler, vous composez le 0901 70 20 20, c'est 36 centimes la minute. Et si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez nous envoyer un message avec votre téléphone portable. Vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez ce SMS au 939 ou vous pouvez passer via le formulaire sur nos sites internet disponibles sur la page des jardinières.
On enchaîne tout de suite avec une question que nous avons reçue à l'instant par SMS. Bonjour, nous demande cette personne, les choux d'ornement sont-ils consommables? Et une deuxième question, bon, on va déjà commencer par celle-ci. Est-ce que les choux, Philippe, les choux d'ornement sont-ils consommables?
Alors, a priori, oui. Mais le truc, c'est que c'est des variétés qui ont été sélectionnées pour leur décoration, pour la partie décorative de leur feuillage. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'ils ont probablement aussi été traités. Donc, ce qui les rendrait, à mon avis, le plus inconsommable, c'est les produits de traitement qu'ils ont reçus.
Juste rebondir sur ces choux, moi ça me fait penser aux coloquintes. C'est pas des choux, c'est des petites courges, on peut pas manger ça.
Non, les coloquintes sont toxiques, très toxiques. Bon, et puis de toute façon, ça doit être parfaitement inconsommable.
J'ai une autre question, Mylène, merci beaucoup.
Oui, et cette personne avait encore une autre question, elle se demande si une plante se composte mieux sèche ou verte.
Alors, je pense... je ne me suis jamais posé la question. Mais nous, on met les mauvaises herbes fraîches sur le compost. Ça se passe très bien. On ne les met pas quand elles sont sèches. Mais en fait, c'est un doux mélange de ce qu'on fait. C'est du sec et du frais.
Et les restes de nourriture pour les privés?
Alors, on ne le fait pas.
Non.
Les restes de nourriture ne vont en principe pas au compost.
Ah, pourquoi?
Il y a plein de choses. Bon, par exemple, si vous mettez du chou bien pourri sur votre compost, ben ça va sentir pas très bon. Voilà. Et puis, on va éviter de mettre des déchets de viande ou de poisson, de choses comme ça, qui n'ont strictement rien à faire sur le compost.
Voilà, comme ça, on est au courant pour le compost.
On enchaîne avec une question de Fabienne qui vit à 700 mètres d'altitude et a planté des patates douces. Les plantes sont belles et ont fait un joli parterre de fleurs. Et elle se demande quand elle pourra récolter ces patates douces et comment savoir quand elles sont prêtes.
Ben ça, c'est une bonne question que je vais toucher. Je ne sais pas. Il faudrait goûter. Il faut goûter.
Donc elle doit déjà creuser la terre, sortir une.
Il faut goûter. Moi, je pense qu'avec c'est peut-être un peu comme les pommes de terre. Donc attendre que le feuillage sèche pour récolter les tubercules.
Merci Philippe. On va parler d'endives maintenant. Paul a semé une trentaine de plants de chicorée pour sa petite consommation hivernale. Mais depuis une semaine, il en a 5 qui se sont dentelés et qui sont montés en graines à 1,5 m de haut. Paul se demande si c'est normal et surtout s'il va pouvoir en faire des endives ou si la racine est épuisée.
Donc les endives, c'est effectivement de la chicorée. Une très jolie mauvaise herbe qui peut monter à 1 m, 1,20 m avec des jolies fleurs bleues. En principe, on les sort en automne, on les sort de terre, on raccourcit, on rabat très fortement le feuillage et puis un petit peu les racines et on les met dans un endroit genre bac à sable, un peu humide. Et en fait, c'est ce qui va donner les endives consommables et qui seront blanches parce qu'elles seront à l'abri de la lumière.
Donc là, comme sa plante est beaucoup montée, c'est pas un problème. Il peut quand même tout couper.
Oui, il faut la couper, puis l'arracher avec les racines. Et puis ensuite, bon, c'est un gros travail. Hein. Moi-même, je ne l'ai jamais fait, je l'ai étudié, mais c'est tout.
Merci
beaucoup Philippe. Vous continuez à nous envoyer vos messages au 939, vous tapez Jardin Espace, votre question, ou par téléphone au 0901 70 20 20. N'ayez pas peur, on ne mord pas, on parle beaucoup de nourriture, mais on ne mange personne. Vous pouvez le faire via le formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émission question aux jardinières, et c'est le cas de Stéphane Mylène qui nous expose son problème. Je souhaiterais mettre en pot des prêles dans ma salle de bain, est-ce possible? Est-ce que cela tiendra? Je n'arrive pas à trouver une plante qui ne meurt pas dans ma salle de bain.
Ouais, alors je pense pas que ce soit parfaitement la bonne plante pour mettre dans une salle de bain. La prêle, c'est une plante qui nous vient de plusieurs millions d'années en arrière. Donc c'est une des plantes les plus âgées sur notre planète. Et puis bon, elle est utilisée. Elle est utilisée pour différentes utilisations médicinales. Ou pour en faire du purin aussi, c'est un effet contre les champignons. Mais c'est une plante qui n'a rien à faire dans une salle de bain. Alors, à moins qu'il trouve une variété, une espèce qui vient de pays exotiques.
Ce serait les seules plantes qui pourraient aller dans une salle de bain, c'est des plantes exotiques, donc.
Ouais, moi j'ai souvent envie de dire aux apprentis que j'ai en classe que ce sont les plantes tropicales qui vont le mieux dans les salles de bain, genre fougères ou plantes vertes, pour autant qu'il y ait de la lumière.
Il faut une fenêtre. On va vous rappeler comment faire pour nous joindre au 0900 70 20 20. Ça, c'est par téléphone pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou via le formulaire à disposition sur nos sites internet sous onglet émission question aux jardinières. On va se retrouver juste après Cookie Dingler et ce titre Femme libérée.
Les jardinières. 7h, 8h. Les jardinières.
Il vous reste encore quelques minutes pour nous envoyer vos questions. Philippe Détra, horticulteur bio à Neuchâtel, se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous envoyer un message, par exemple, vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez tout ça au 939, comme l'a fait Yves.
Exactement, ou via le formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émission question jardinière, ou on aime bien nous par téléphone si vous n'êtes pas timide, 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Justement, la question de Yves, Mylène, je vous la laisse.
Bah oui, alors cette question de Yves qui concerne des orchidées, et il nous dit que deux théories s'affrontent. Tout d'abord, l'arrosage par trempage ou par quelques gouttes par semaine, laquelle est prescrite? Philippe, merci.
Alors moi, je préférerais la première par trempage, c'est celle que je conseille en général. Donc on les trempe dans un évier, puis après on les laisse s'épurer tranquillos. Une fois par semaine, pas plus, parce que sinon les racines pourrissent. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, les orchidées sont souvent vendues dans des pots plus ou moins transparents, qui permettent aux racines de faire aussi de la photosynthèse comme le font les feuilles. Et puis après, ben, alors effectivement, c'est pas très jojo. Donc, on va mettre ces orchidées dans des cache-pots, et puis c'est là que ça se gâte. Parce qu'on ne maîtrise pas bien le niveau d'eau qu'il pourrait y avoir au fond du cache-pot, et les racines pourrissent.
Donc, il faudrait éviter de mettre un cache-pot aux orchidées.
Ouais, ben, en même temps, c'est pas très joli, quoi.
Bon, ben, c'est des racines.
C'est pot transparent. Voilà.
Ce design, c'est moderne.
On va enchaîner sur une question qu'on a reçue également par SMS, Raphaël.
Oui, de Marcus qui a retrouvé des sachets de graines dans la maison de ses parents. Les semences étaient conservées dans le noir et au sec. Est-ce qu'il peut semer ces graines? Et surtout, est-ce qu'elles vont pousser?
Alors, aucune idée, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis, on ne connaît pas non plus les conditions dans lesquelles elles ont été vraiment conservées, au noir et au sec, ça me paraît bien. Il ne faudrait pas qu'elles aillent geler, à moins que ce soit des plantes vivaces. Enfin, y a certaines graines qui ont des durées de vie de quelques jours et d'autres de plusieurs années. Donc la tomate, par exemple, on peut avoir encore des graines qui germent jusqu'à 8 ans.
Donc le mieux, c'est qu'ils testent. Nous avons reçu une question de Aurélie qui nous dit « Bonjour, comment faut-il faire pour garder les Dipladenia l'hiver pour la saison prochaine ?»
Alors, le Dipladenia, contrairement au fuchsia qui demande pas forcément beaucoup de chaleur, on a parlé du fuchsia tout à l'heure, on peut le conserver, le fuchsia, jusqu'à 5-10 degrés, ça va bien aller. Le Dipladenia, moi je conseille un petit peu plus chaud. jusqu'à environ 15 degrés. Évidemment, l'idéal, c'est une serre ou des endroits très éclairés.
Oh, c'est pas donné à tout le monde. Merci Philippe.
Et vous lâchez hein, sur...
Oui, les SMS arrivent bien. Vous aussi, envoyez toujours vos SMS. Vous tapez jardin, espace, votre question. Vous envoyez tout ça au 939.
Et comme Monica l'a fait, bonjour, comment on se met du gazon pour combler des trous? Faut-il tout retourner ou passer un râteau pour gratter, puis semer? Et ensuite, merci et belle journée.
Ok.
Donc en fait, on veut la notice de comment faire un beau gazon, en fait, en gros.
Ouais. Donc elle a des trous et elle aimerait les boucher.
Ouais. Alors, on est dans une période où ça se prête, la scarification se prête bien. Donc il faudrait tondre un peu le gazon, scarifier, ça veut dire c'est louer une machine qui va faire des trous dans l'herbe et enlever les mousses, les mauvaises herbes. Voilà. Et puis ensuite, on fait un sursemis, c'est-à-dire un semis de... On va remettre des graines sur cette à la suite de la scarification. Voilà, normalement, avril, septembre, ça se prête bien à cet exercice. C'est de toute façon beaucoup plus simple que de tout labourer, parce que tout labourer, vous allez devoir enlever des mottes. Donc là, c'est recours au paysagiste, à mon avis.
Et puis, faut le faire maintenant, avant que ça gèle, j'imagine.
Ben, c'est bien. Septembre, c'est bien. On a des températures au sol qui se prêtent bien à semis de gazon. Il fait pas froid. On peut pas dire qu'il fait déjà froid. Hein. Et puis, il fait pas trop chaud non plus.
Il fait moite-moite. Nous avons une question de Tom de la Neuville. Il nous dit, je vais emménager dans un immeuble avec balcon. Je recherche une plante avec fleurs ou pas, qui serait assez feuillue pour faire office de brise-vue, pas forcément toute l'année, mais au moins de mai à octobre, et donc plantée dans des jardinières accrochées au rebord de la terrasse. Ça, il y a du détail.
Oups, donc ça dépend de la taille des jardinières.
Voilà. On imagine qu'elles ne sont pas très très grandes, vu qu'elles sont accrochées au balcon à l'extérieur.
Je pense que c'est ce qu'on appelle les bacs à géranium, quoi. Donc là, il va pouvoir, en allant dans une jardinerie, il va trouver au mois de mai une foultitude de plantes qui va pouvoir faire office d'écran, mais pas très haut. Hein, je pense que ça va pas monter plus haut que 30-40 cm.
Donc il a meilleur temps de mettre un store.
Après, s'il a des bacs beaucoup plus gros, alors il peut imaginer des arbustes.
Ah bah oui, ça serait une...
Après, ça dépend vraiment de la taille des bacs.
Merci Philippe. On rappelle hein, vos questions, vous avez encore quelques minutes pour nous envoyer par exemple un message. Vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou alors par téléphone, c'est Raphaël qui vous répond au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou via le formulaire à disposition sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et je suis prêt à décrocher, hein. J'attends vos appels avec impatience. Mais en attendant, peut-être une question de Lorraine de Porrentruy qui a un grand potager. Elle l'a beaucoup arrosé cet été à cause de la canicule. Là, les températures sont quand même un petit peu descendues. Elle se demande s'il faut quand même continuer à arroser. Merci beaucoup.
Alors, j'ai entendu Mylène qui disait qu'il allait pleuvoir ce week-end.
Oui.
Malheureusement, oui.
J'attends de voir, parce que les jardins en ont un grand, grand, grand besoin en ce moment. Donc, c'est vrai que s'il ne pleut pas, il faudra arroser quand même un petit peu.
Donc on continue l'arrosage. On a reçu un SMS de Lisa de Tavannes qui nous demande quand faut-il planter la rhubarbe.
Elle peut se faire en automne, elle peut se faire au printemps. Donc je ne sais pas si elle a prévu d'acheter des pots. Si elle achète un pot de rhubarbe, il lui faudra un petit peu de patience et attendre 2 ans avant de commencer à récolter. Parce que s'il le fait avant, elle va l'épuiser. Maintenant, si c'était une grosse rhubarbe qui était dans un jardin et puis qu'elle va la sortir, l'éclater, il faudra peut-être même compter 3 ans d'attente avant de consommer.
Il faut de la patience pour la rhubarbe. Est-ce qu'on peut aussi planter des graines de rhubarbe ?
Ah non, on peut en trouver, mais ça va donner des espèces de rhubarbe pas bonnes. Donc... Les rhubarbes, comme pour les pommes ou les poires ou les fruits, divers fruits, ont des variétés qui ont des caractéristiques en douceur, en couleur des tiges.
Très Très bien, donc la rhubarbe, c'est soit maintenant, soit attendre le printemps. On enchaîne avec une question sur les potirons, Raphaël.
Exactement, elle nous vient de Joseph qui s'est aperçu que plusieurs de ses potirons, et pas les plus gros, sont craqués. Est-ce qu'ils sont arrivés à maturité ou est-ce que c'est un manque d'eau? Il a peur de voir éclater tous ses potirons.
Alors là, je peux pas vraiment vous dire pourquoi ils se craquellent, mais je sais que bon, en automne, on devrait réduire l'arrosage de tout ce qui est courge, potiron, pour les aider à mûrir. C'est tout ce que je peux vous dire sur le craquellement. Je vois pas ce que c'est.
En tout cas, ils sont très bons en soupe. Les jardinières, eh bien, c'est comme l'été, c'est presque fini. Mais avant de se quitter, on va passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. On a parlé de beaucoup de choses ce matin, de gazon, de fuchsia, mais aussi de plantes fraises. Philippe, nous sommes le 21 septembre. De quoi faut-il impérativement s'occuper au jardin maintenant?
Alors moi, ce que je vais faire dès que je pars d'ici, c'est récolter mes figues.
Ah, les bonnes figues.
Mais non.
Bon, tout le monde n'a pas des figues dans son jardin, Philippe.
C'est vrai que, mais pour moi, c'est le plus grand régal d'automne. Sinon, ben, dans le jardin, actuellement, ben, un peu nettoyer, enlever les mauvaises herbes, continuer. Peut-être récolter, comme je l'ai dit en début d'émission, récolter les fruits, les légumes.
Et les stocker, peut-être vous avez des conseils de stockage. Je sais qu'une tomate, on ne peut pas la stocker pendant l'hiver.
Non. Donc là, vous parlez de la plante de,
non, bah, les plantes, on sait que vous nous l'avez assez dit.
Voilà.
Elles vont mourir.
Elles vont mourir. Donc les fruits, on peut les conserver quelques jours, voire même une semaine, 10 jours, sans problème, si c'est dans un endroit qui est au frais, bien aéré.
Et puis par exemple, là, vos figues, vous les ramassez, vous les conservez comment?
Je les conserve pas, je les mange. Non, on les vend aussi directement. Et puis ça m'arrive d'en avoir énormément, donc du coup je fais des confitures. Et là je vais essayer de faire une moutarde aux figues.
Moutarde aux figues,
ouais, c'est bon.
ça donne faim.
Ça
juste
donne faim.
Très rapidement, en quelques secondes, puisque je suis quand même le petit novice des jardinières, est-ce que quand on est horticulteur bio, est-ce que le bio devient facile à cultiver quand on est à la maison?
Ouais, extrêmement facile. J'ai eu un tout petit peu des craintes il y a 20 ans lorsque j'ai commencé, et puis je reviendrai jamais en arrière, jamais. On a une diversité dans le jardin qui est juste magnifique, parce que les insectes reviennent, les animaux reviennent, et puis il s'établit un équilibre. Voilà.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci, et on rappelle que vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel, au Jardin des Senteurs. Merci de vous être levé aussitôt et d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Philippe, et bon week-end à vous. Et bonne figue, surtout.
Pareillement.
Nous serons de retour samedi prochain dès 7h pour une nouvelle session jardinage. Nous aurons le plaisir d'accueillir Tom, le jardinier. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment, soit via le formulaire disponible sur nos sites internet, soit par SMS. Bon week-end, Raphaël.
Mais bon week-end, Mylène. À tout bientôt, à samedi prochain.
Non, mais avec plaisir. Et puis, on rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver tout à l'heure aussi sur nos sites internet. Vous souhaitez une toute belle journée.
Bon week-end à tous.
Et bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.